En flux libre, l'émission. Bonjour à tous, bienvenue dans En flux libre pour nos traditionnelles causeries libristes et libertaires avec cette semaine une meilleure fluidité dans l'émission. Ouais, parce que au départ en fait il y avait un nouveau générique et puis finalement comme on n'a pas eu le temps de boutiquer tout ça, voilà, on a dû refaire la reprise une deuxième fois. Donc grâce à l'adoption enfin d'un conducteur minuté, mais on vous laisse le soin de découvrir tout cela et de faire vos commentaires. D'ailleurs j'en reparlerai à la fin de l'émission. Pour m'accompagner comme toujours dans cette mission libriste et libertaire, c'est mon cher Alain en face de moi. Salut Alain.
Salut Ghislain, salut à tous.
Comment ça va?
Très bien et toi?
Ouais, ça va plutôt bien. Ouais, on est content, on est très content de faire l'émission aujourd'hui.
Ouais.
On était content les autres fois aussi.
À chaque fois, c'est marrant.
À chaque fois, oui. Donc au sommaire de ce 8e numéro d'Enflux Libre, le flux d'infos, en fait, le nouveau nom pour les news. Un, parce que ça fait plus français, et deux, parce que j'avais du mal à le dire. À chaque fois que je dis les news, j'ai tendance à le déformer. Donc pour le flux d'infos cette semaine, un état des lieux du projet Novius OS, dont on vous en avait parlé dans une précédente émission. Le Raspberry Pi, cet ordinateur à 35$, enfin ordinateur. Oui, on va dire ordinateur. On va dire ça. À 35$, victime de son succès. L'apparition d'un nouveau type de party, les copy party, dans la même veine que la fermeture de Mega Upload. Et un nouveau plan de maintenance dans le noyau Linux. Le focus par moi-même vous fera découvrir le Arduino, un circuit imprimé qui commence à faire beaucoup parler de lui. De la musique juste après pour se détendre avec Outsider et Something Like This. La Digakile Dalom.
On va changer son nom aussi.
Oh oui, on va changer son nom. On va changer parce qu'à chaque fois je bute. La dégicalisation avec Alain. Qu'est-ce que tu vas nous parler cette semaine?
Eh bien, comme on en avait parlé il y a deux semaines, on va parler du démarrage du noyau et plus globalement du démarrage d'une distribution. Ce sera surtout une première partie et puis si ça vous plaît on fera peut-être une seconde partie dans une prochaine émission.
Ouais, nos explications techniques j'ai l'impression qu'ils plaisent.
Ça, oui, ça je crois, ouais, j'ai l'impression
nous,
aussi.
Nous ça nous fait un peu des petites révisions. Donc,
exactement.
Voilà, et puis ça fait une émission diversifiée. Et enfin la sélection en flux libre avec un beau troll de la part d'Alain.
Non.
C'est la première fois qu'il en fait un.
C'est même pas du troll,
enfin,
c'est
en
du
cas,
bon
c'est
sens.
Bien, ouais, mais en tout cas, c'est bien rigolo, hein, c'est bien marrant, on aura le temps de débattre de tout ça. Le nouveau site d'Enflux Libre, depuis le temps que, depuis le temps qu'on le disait, je me suis retenu, mais enfin, on peut l'annoncer, il y a un nouveau site pour Enflux Libre. On parlera aussi de Newiz, car une excellente nouvelle attend votre émission favorite, hein, plus attendue que Téléfoot d'ailleurs, hein, je sais pas si tu l'as vu.
Oui.
Salut à toi, auditeur qui aime Enflux Libre.
C'est Luc, c'est mon petit lapin Luc. Merci Luc.
Non mais ça me regarde pas, hein, ça c'est votre culture. Et un petit mot pour ma part de Frugalware. Mais pour l'heure, place au générique et on revient juste après pour les actualités, pardon. Enflux libre, l'émission du libre et des libertés numériques, c'est parti.
Enflux libre, l'émission du logiciel libre et des libertés informatiques, présentée par Alain Devarieux et Ghislain Larose. We'll be right back.
le flux d'infos, le nouveau nom pour les news, et c'est terminé, je ne le dis plus, de ces dernières deux semaines. Et on commence avec toi, Alain, et l'état d'avancement de Novius OS.
Novius OS, on en avait déjà parlé il y a
quelques émissions.
Il y a 3 ou 4
émissions de ça. On a vu des retours d'ailleurs, ils avaient eu. Il a fait une page où ils avaient expliqué pourquoi
ce nom. Ça s'appelle Novius OS.
On était un peu sceptiques.
Oui, tout à fait, ouais. Donc, Novius OS, je voulais faire un petit retour sur eux, puisque ils continuent toujours leur travail. Ils travaillent très bien, d'ailleurs. Je les suis de loin, je ne vais pas leur parler ni rien, mais je viens voir de régulièrement...
Je leur ai souhaité une bonne année, moi,
C'est
sur
bien.
Twitter. Pas libre.
Donc, la 0.1 alpha est sortie, donc pour l'instant
bêta,
c'est...
Bêta.
La
0.1 oui, bêta.
Oui, tout à fait. La bêta et la alpha arrivent très 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 bientôt. Là, ça arrive vraiment sous peu. Donc, c'est toujours pas stable. Il y a encore un petit peu de débugage à faire. Mais sinon, en tout cas, quand on teste leur démo, ils ont modifié pas mal de trucs. Ça avance bien. C'est toujours aussi joli. C'est toujours aussi efficace. Donc, c'était juste pour leur faire un petit coucou. Leur dire que moi j'attends avec impatience d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir l'utiliser et puis tester et puis voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment très prometteur, comme on l'avait dit déjà la dernière fois.
Oui.
Donc, cette petite news pour leur faire un petit coucou et puis montrer un petit peu leur avancement. Et ils ont quasiment arrêté la version 0.2, donc savoir, ils ont quasiment fixé la feuille de route pour la version 0.2 et je continue de suivre tout ça, en tout cas pour eux. Voilà.
D'ailleurs, je pense qu'il y a une coquille, parce qu'effectivement sur l'entête du site on a Novius 0.1 alpha, mm-hmm. et c'est marqué bêta dans l'article, donc il y a peut-être une petite coquille.
Alors
de leur
en
part.
Fait la alpha est sortie et ils
ouais.
sont
ah, ils sont en ordre. Ah oui, d'accord, j'avais pas lu. En ordre de marche,
sortir la bêta bientôt.
Voilà, d'accord. Donc autant pour moi, toutes mes excuses. Et pourquoi pas le futur moteur de propulsion de notre site internet.
Peut-être c'est, bien.
Sait-on jamais. Sait-on jamais un jour. On vous attend. Messieurs les développeurs de chez Novius OS.
La suite, du coup, avec le Raspberry Pi, victime de son succès, Ghislain.
Est-ce que... Je crois qu'on en avait parlé aussi, mais vite, très
je
vite
sais
fait.
Pas.
Je
vite
ne sais
fait.
Plus.
Ouais, rapidement.
Ouais, très rapidement. Je pense que dans les milieux libres et open source, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé. Donc, le Raspberry Pi, un ordinateur low cost, vendu environ 30 à 35 dollars. Donc, lancé le 29 février. Et qui, quelques heures après avoir été lancé officiellement par deux revendeurs britanniques, était en pas en rupture de stock, mais en tout cas les sites étaient complètement down.
Donc, et il n'y a plus de stock de toute façon.
Et il y a plus de stock. Donc, le Raspberry Pi, c'est une petite carte électronique, vraiment très petite, avec une architecture ARM, donc un processeur ARM. Donc, qu'on retrouve bien évidemment dans des téléphones portables d'aujourd'hui, hein, les fameux smartphones, et des ports avec port USB, Ethernet et HDMI, donc quelque chose quand même d'assez, d'assez costaud, parce qu'effectivement, si on regarde une photo du Raspberry Pi, c'est vraiment tout petit.
Ça tient dans la main.
Ouais, ça tient dans la main. Et donc, l'ordinateur utilise. Comme bon, le développement est plus ou moins open source, utilise des distributions Linux. Donc, il y a eu, je crois, une version Debian, une version Fedora et Arch Linux,
oui,
aussi qui a
une version ARM
annoncée.
Oui.
Donc, il y a 256.
Excuse-moi,
oui.
Je te coupe
Vas-y,
un peu. J'ai voulu en acheter un quand c'est sorti. je suis allé sur le site, j'ai fait d'accord, c'est déjà fini.
J'attends aussi. J'attends d'en acheter un. Et 256 mégas de RAM. Bon, c'est vrai que c'est pas.
Ça
pas
dépend,
très...
il y a une version.
Il y a une version plus haute.
Plus haute, oui, ouais. 512 ou 1 giga, je ne sais
plus. D'accord. Donc, c'est un ordinateur à bas coût lancé par la Raspberry Pi Foundation, organisation caritative, qui vise en fait plusieurs objectifs. En tout cas, le plus grand objectif qu'ils annoncent, c'est d'inciter les jeunes utilisateurs à faire de la programmation. Donc, par exemple, en classe, pour des enfants qui sont en primaire ou au collège, c'est une approche, en tout cas à mon sens, très intéressante pour pas le bidouillage, parce que je dirais que c'est plutôt bas niveau, mais en tout cas pour comprendre la physique, parce qu'évidemment, oui, il y a de la physique, il y a toute une histoire de circuits électroniques, la physique, les mathématiques, pardon, et l'informatique, voilà, forcément.
Ça permet surtout d'équiper, de s'équiper à bas prix, d'équiper des classes entières à bas prix pour
et voilà,
pouvoir,
oui,
utiliser,
voilà,
des ordinateurs, faire de la programmation, même faire d'autres choses, de l'utilisation,
oui,
basique.
Tout à fait.
Donc, très intéressant, ouais.
Et si j'ai annoncé cette news-là, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est parce que juste après, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on vous parle d'Arduino.
Oui.
Parce que voilà, ça se rapproche du concept, même si c'est tout pas tout à fait la même chose, hein, notamment au niveau matériel, mais ça s'en rapproche. Quelque chose, un petit circuit électronique, programmable, où faut pas trop savoir quand même programmer pour commencer à y toucher. Donc voilà, on en reparlera juste derrière. Toujours est-il que je crois que les sites sont toujours down, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas,
enfin,
pas
les,
down,
les
mais
sites
les sites sont
mais
fonctionnels, mais en tout cas, il n'y
a plus
de
stock. Il voilà. Faut en refabriquer.
Oui, voilà. Donc, pour l'instant, c'est mort pour si jamais vous aviez l'envie d'acheter un Raspberry Pi.
D'ailleurs, les sites web avaient été prévenus que ça risquerait d'être un peu le rush,
ouais,
sur leur site.
Mais c'est un peu étonnant, hein. C'est un peu étonnant parce que
les gars des sites web ont dit non mais vous inquiétez pas, nous on vend du matos pour professionnels, on a l'habitude,
oui,
d'avoir du monde,
voilà,
etc.
Et ben voilà.
Ils ont pas fait un pli, quoi.
Il y a eu un buzz énorme aussi.
Ouais,
désolé,
ouais,
de dire le mot parce que j'ai horreur de ce mot, mais il y a eu quelque chose d'assez énorme finalement parce que
c'était très attendu en fait.
Et voilà, sur les réseaux sociaux, ça me fait un peu entre guillemets de le dire, mais voilà, sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé, les sites d'actualité informatique, enfin, en tout cas, il y a eu un énorme bruit autour et voilà, aujourd'hui, il y est, mais il est en rupture de stock. Donc on vous tiendra informé si jamais on a deux ou trois stocks à la maison. En tout cas, moi, j'ai projet d'en acheter un, ça c'est sûr.
Ouais, j'aimerais bien aussi.
Donc voilà. Alain, la prochaine actualité, il va falloir que je m'habitue, parce que je ne sais pas dire news, c'est pas la peine. La prochaine actualité, c'est copy party. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé?
C'est pas un truc de pirate, justement.
Non, de
Tipiak. C'est ça qui est bien, de Tipiak. une copy party, donc c'était le 7 mars dernier à La Roche-sur-Yon. Une copy party a été organisée. Alors, une copy party, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on demande aux gens de venir dans une bibliothèque publique et puis ils viennent avec leur ordinateur, leur scanner ou avec leur smartphone par exemple ou leur appareil photo et ils font des copies des bouquins qui se trouvent dans la bibliothèque. Tout ça parce que alors pendant un bon moment il y a eu un vide juridique au niveau, c'était un petit peu dans une zone grise, savoir est-ce qu'on avait le droit ou pas de copier les bouquins qui sont dans les bibliothèques. Et puis il y a une loi récemment, l'année dernière je crois, qui est passée, disant que les copies de bouquins qu'on fait dans les bibliothèques rentrent dans le cadre de la copie privée. Donc, tout simplement pour dénoncer un petit peu tout ce qui est fait autour de autour du droit d'auteur, eh bien, il y a un petit groupe de personnes qui a décidé de lancer cet événement-là pour que les gens puissent venir faire des copies et puis montrer que bah, le droit d'auteur, ça sert à rien non plus de taper sur les gens systématiquement et qu'on peut qu'il serait sans doute intéressant de trouver une nouvelle solution par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais en parler, hein, parce que.
Et ça, c'est tu parlais du vide juridique, hein, tout début de l'actualité.
Mm-hmm.
Vide juridique qui a plus ou moins comblé Google, mais de force, avec les fameux livres, ouais, copiés. Alors, il y a eu des,
voilà,
accords avec la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France.
Tout à fait.
Et donc, bon, ça, Google a un peu forcé, un peu.
Mm-hmm.
Fait du forcing.
Là, ça
pour
fait
numériser.
Pas partie de la copie privée. C'était vraiment,
ouais,
y avait un souhait de la Banque nationale de France de numériser leurs œuvres,
mmh,
et ils savaient pas trop comment s'y prendre parce qu'ils ont pas les moyens techniques et financiers de le faire eux-mêmes. Donc, ils voulaient faire d'abord appel à des groupes privés. Ça coûtait extrêmement cher. Et puis Google leur a dit, bah, nous, on vous fait ça gratuitement si vous voulez.
La puissance de la gratuité de Google.
Voilà, donc. Exactement. Donc voilà. La
et,
suite.
Et donc la copie oui. party, hein, parce que c'était une copie party qui s'était déroulée le 7 mars dernier. Voilà.
7 mars à La Roche-sur-Yon.
Et c'était à La Roche-sur-Yon.
Voilà. Et il y en aura sans doute d'autres d'organiser.
Oui, je pense
dans,
que c'est une initiative.
Dans d'autres villes.
Et c'est marrant parce que copie party, bah, ça fait un peu écho avec toute l'actualité de ces
Exactement.
Derniers deux
voilà,
mois.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Donc voilà, tout un symbole sans doute derrière ce nom, copie party.
Voilà. La suite, Ghislain, avec une petite rétrospective sur le noyau 2638.
Alors, c'est plus une news qui explique deux, trois petites choses plus ou moins vagues, parce que là, ça concerne le noyau. Donc, quelque chose d'assez technique. Donc, je vous avais annoncé, je crois que c'était la semaine, il y a deux semaines ou l'autre émission d'avant, que Greg Krau-Hartmann, voilà, c'est ce nom, avait quitté Novell-Sues pour passer à la Linux Foundation. Et donc, maintenant, il s'occupe du projet Long-Term Support Initiative. On en avait parlé dans cette émission d'ailleurs.
Oui.
Ce projet, en fait, de faire un peu comme une Ubuntu, finalement, LTS, c'est-à-dire des mises à jour qui durent beaucoup plus longtemps que des versions d'entre-deux, finalement. Donc, on vous l'avait dit qu'il y avait de nombreuses entreprises qui avaient décidé de participer à cette initiative, Hitachi, LG Electronics, NEC, Panasonic, Qualcomm, Atheros, Renesas, Samsung, Sony et Toshiba. Oui, ils sont plus nombreux aujourd'hui, d'ailleurs.
Tout ça.
Oui, tout ça, oui. C'est pas les moins importants, finalement, puisque... je vois Qualcomm ou Samsung, voilà, c'est quand même du beau monde. Donc le premier noyau qui devrait bénéficier de cette maintenance, ce serait le noyau 3.0. Donc en fait, le noyau qui a servi un peu de base de travail à ces LTS justement, c'était le 2.6.32 qui a été le noyau de référence qui a été maintenu pendant 823 jours et ce sont 3349 patchs qui ont été appliqués sur le noyau. On va pas vous expliquer, on va pas lire en détail parce que c'est absolument voilà, c'est absolument dantesque. D'ailleurs, merci à Patrick G de Linux FR pour l'explication. Et donc, un noyau en fait spécifique est élu chaque année, donc élu et baptisé tiré long terme et donc maintenu pendant les deux prochaines années. Effectivement, comme on l'avait dit rétrospectivement, ce modèle de long terme support sera bien plus applicable aux entreprises et qui utilisent du matériel embarqué, qui n'ont pas envie de faire des mises à jour.
Voilà,
tous
c'est
les,
ça, ouais.
Voilà, c'est surtout ça en tout cas. Donc voilà. Et on peut aussi noter que Greg Hartmann travaille aussi avec des développeurs Debian. Donc on peut saluer voilà de chaque côté Linux Foundation, Debian. Alors on sait que ça a toujours été enfin, plus ou moins la guerre. En tout cas, voilà, Debian a toujours fait son petit truc dans son coin, on va dire.
Ouais,
ils ont fait,
je sais pas.
Plus du côté GNU en fait. Plus du côté GNU
oui,
que du
voilà,
côté
ouais.
Linux, je
ouais,
pense.
Ouais, pas
voilà,
du côté
plus,
Linux, voilà, côté GNU, ouais.
Plus du côté GNU. Donc voilà à peu près ce qu'il dit, en tout cas à la fin de son commentaire. Je suis fermement convaincu que sans leur aide, le noyau 2.632 n'aurait pas eu le succès qu'il a rencontré. Les utilisateurs des produits Red Hat et Suse ont une sacrée dette envers eux. Voilà, donc le commentaire...
J'aime cette conclusion.
Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette conclusion. Évidemment, c'est pas idyllique, mais... En tout cas, ça avance, les uns se réconcilient avec d'autres et on marche main dans la main, donc tout va bien de notre côté, on va dire, voilà. Dans notre système, dans notre beau système d'exploitation GNU Linux. Et ben voilà, c'était même la fin des news.
Déjà,
ouais,
des actualités.
Bon, des actualités. Et tu...
Ça va pas être facile.
Ça
mais
va pas être facile,
faire.
Et en plus, c'est ouais. moi qui ai mis en place ce truc-là, donc voilà. Et
du coup, on passe au focus.
Oui,
alors,
on passe au focus parce qu'à l'actualité, il n'y avait rien du
c'était
tout.
Un pendant... pauvre.
C'était pauvre.
C'était un peu
en actualité.
Pauvre. C'est vrai. On aurait peut-être pu un petit peu pousser sur la sortie de Arch Linux ARM.
Tu veux peut-être en parler ?
Bah,
il nous reste du temps, tu peux en parler. Hein.
Bah, j'ai pas trop poussé le sujet.
En
donc,
gros, Arch Linux sur plateforme ARM comme Debian.
Voilà,
parce que sur ARM, il n'y a pas grand chose. Hein.
Non, justement,
c'est
très pauvre. C'est
ouais,
très
en
pauvre.
Distribution Linux. Alors, ARM, c'est ce qui équipait aussi certains netbooks. À
oui.
une certaine, une
oui.
certaine époque, hein, il y avait l'Intel Atom, mais il y avait aussi des processeurs ARM. Donc, c'est vrai que.
L'avantage de l'ARM, c'est au niveau de la consommation électrique.
Ouais.
Mais j'entends sans arrêt des annonces. C'est ça le problème. Il y a sans arrêt des annonces, mais il n'y a rien qui vient finalement. Parce qu'en ARM, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, propriétaire? On a Windows, mais je ne sais même pas s'ils sont adaptés pour l'ARM.
Si, si. Je crois en tout cas, Windows 8 sera ARM.
Oui, mais c'est une version spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une version spéciale. Bon, on ne va pas faire de troll parce que c'est pas.
Et c'est payant.
Et c'est propriétaire.
Ah mince, sans déconner.
Et c'est pas libre. Et ça pue. Tout ce que tu veux.
Donc, allez, on enchaîne sur le focus. Cette semaine, Ghislain, tu vas nous parler donc de Arduino, ce circuit imprimé qui fait de plus en plus d'émules. Ghislain, on t'écoute.
Et ça sera juste après générique. Merci Alain. Effectivement, je vais vous parler cette semaine du Arduino dans ce focus. Voilà pourquoi j'ai introduit le sujet avec le Raspberry Pi tout à l'heure. Donc, ce Arduino a déjà commencé à faire des émules, car voilà, c'est un rêve inavoué de hacker, le pouvoir de contrôler n'importe quel objet grâce à un simple petit circuit imprimé. Alors le Arduino peut se monter soit en l'assemblant soi-même ou en l'achetant préassemblé. Et surtout, il est le pont entre les programmeurs sur ordinateur et les bidouilleurs en herbe de matériel électronique. Son développement est open source, les plans sont d'ailleurs fournis, ce qui facilite effectivement sa prise en main par les plus curieux d'entre nous ou ceux qui ne se contentent pas que d'aller sur Facebook dès qu'ils ouvrent leurs ordinateurs. Je referme la parenthèse trollesque. Le projet Arduino a commencé à l'origine à Ivrea en Italie dans une société qui s'appelle Olivetti. Je crois que c'est une société d'ailleurs.
Olivetti.
Ce n'est pas des bêtises. Je crois qu'ils font des ordinateurs ou ils font des trucs pour les entreprises. J'ai pas été trop
ça me parle, mais je sais plus ce qu'ils font, mais c'est une marque que j'ai déjà vue en tout cas.
Moi aussi, c'est une marque que j'ai déjà vue. Donc c'est en Italie en 2005, dans le but d'initier des étudiants dans la programmation. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le Raspberry Pi. Oui. Dans la programmation de microcontrôleurs et la conception électronique. Donc le Arduino, comme dit précédemment, c'est un petit circuit imprimé, rien de plus, rien de moins, équipé d'un microcontrôleur qui sert à interfacer un objet électronique ou une tâche particulière d'un objet vers un ordinateur. Très utile, par exemple, je donne plein d'exemples, en domotique, pour le contrôle d'appareils ménagers, une cafetière, c'est peut-être un aspirateur.
On a vu ça à Bretagne Télécom,
Oui.
Télécom Bretagne,
il remet ça dans l'autre sens. Le chauffage central, j'avais vu un journal sur Linux FR, quelqu'un qui avait fait un très long journal où il expliquait, je crois que c'était Arduino qu'il avait utilisé, il me semble, dans le but donc, de récupérer les informations vers l'ordinateur et de pouvoir le contrôler directement. Tu parlais d'ailleurs de Télécom Bretagne. Et donc quand on a fait notre visite, effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu par exemple une cafetière qui était reliée, donc interfacée avec un Arduino, reliée à un ordinateur où on pouvait suivre sa consommation, donc les pics d'énergie, quand est-ce que les gens prenaient leur café, tout ça.
Combien de cafés ont été consommés,
ça c'est plutôt utile, ça permet de redresser un peu les vis si vraiment il y a trop de gens à la machine à café. Mais il peut aussi servir pour contrôler des logiciels sur un ordinateur. Donc par exemple, moi qui fais de la musique ou qui fais du montage, donc le montage par exemple de cette émission, donc sur des choses bien plus complexes comme SuperCollider ou MaxMSP. Alors ce sont des logiciels en fait qui utilisent des mathématiques pour faire de la musique.
D'accord.
Pour les connaisseurs d'ailleurs, je vous recommande d'écouter Otecre sur Warp Records. Ce sont des gens en fait qui utilisent ce genre de matériel et justement ce genre de logiciel, et c'est pour ça que leur musique est assez spéciale, c'est parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Le module est construit autour d'un microcontrôleur qui est en fait une mémoire dans le but d'inscrire des instructions de programmation, ce qu'on appellerait trivialement un firmware. Donc celui du Arduino est un Atmel AVR ainsi que divers autres modules dont un régulateur linéaire qui permet de réajuster la tension à 5 volts. C'est très technique
en effet,
mais pas tant que ça finalement. Le principe est le même et permet de faire une multiplicité de tâches mais avec un seul truc finalement, voilà.
D'accord.
Alors la programmation se fait grâce à une connexion série sur le circuit, puis un convertisseur se charge de le faire passer d'une interface à l'autre pour aller sur l'ordinateur. Donc cela peut être de l'USB, aujourd'hui c'est plus ce qu'il y a de plus répandu,
j'imagine,
du Bluetooth ou du RS-232. En fait, c'est du une connexion série,
oui,
mais
port série.
Ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très rare. Ou si vous avez encore une vieille tour des années 90.
Avec les imprimantes série.
Ah oui, les imprimantes série avant le port parallèle. Ouais. Hein, pas mal. Pas mal. Alors, la partie la plus importante, à mon sens, parce que, effectivement, on peut bidouiller l'Arduino, on peut en faire ce qu'on veut, on peut détacher des composants, on peut en ressouder, vraiment, on fait ce que l'on veut. Il y a un côté programmation. Donc, de ce côté-là, tout se fait grâce à un logiciel codé en Java, libre, multiplateforme. La programmation utilisée, c'est pas plus compliqué, c'est du C. Voilà.
D'accord.
C'est du C, lié à la bibliothèque de développement d'Arduino et qui permet ainsi le contrôle total du circuit. Et donc, vous écrivez vos petits programmes, pouf, vous le updatez dans le microcontrôleur du Arduino et poum, c'est bon, c'est parti. Bon, c'est plus compliqué dans les, c'est plus compliqué, mais pas plus que ça finalement. Alors, ça rend aisé la programmation parce que le C, c'est un langage de programmation informatique. Sans doute le plus utilisé au monde,
oui, oui.
De toute manière. Le point de passage pour tout utilisateur désireux de faire de la programmation. Oui. D'ailleurs, il faut que je finisse mon C en 20 heures, absolument. j'ai toujours pas touché à mon C en 20 heures. Il n'y a pas de brevet sur l'Arduino, en fait c'est simplement le nom qui est protégé. Hein. Le reste
D'accord.
est du LGPL et du Creative Commons, il me semble, pour...
Donc même le matériel.
Ouais, même le matériel, il y a
le matériel est open source.
Le matériel est open
ça,
source.
Bien,
il y a,
ça.
En fait, c'est le nom et tous les projets dérivés autour qui sont protégés par une licence. Le reste, c'est que du copyleft. Donc voilà, tranquille. Et c'est ça en fait qui fait la popularité de la chose finalement,
oui,
parce
oui.
que n'importe qui, toi, moi, quelqu'un qui veut plus faire forcément. En tout cas, ça s'adresse à des gens qui ne veulent plus faire que de l'informatique, qui veulent vraiment toucher à autre chose, qui veulent utiliser l'informatique comme un outil à part entière.
Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'on peut, si on le souhaite, acheter les pièces et monter
oui.
soi-même.
Ah oui, on peut monter
en fait,
soi-même, ouais.
Son
oui.
Son Arduino.
Oui, tout à fait, oui. Pour ce qui me concerne, j'en parle tout à l'heure hein, au niveau de la musique par exemple on peut par exemple alors il y a un contrôleur qu'on peut trouver et qu'on peut acheter, alors il est assez cher, qui s'appelle le Monome. Alors je sais que je vais faire plaisir
ça
à mes amis
parle,
de Stinux parce qu'ils en avaient parlé dans leurs précédentes émissions.
Ah, oui.
Alors le Monome, c'est une espèce de, tu vois, c'est un espèce de grand carré avec 128 touches, je crois que ça peut différer, c'est 64 ou 128 touches que tu relies à ton ordinateur et tu contrôles. Comme c'est du MIDI, forcément, tu contrôles n'importe quoi. Tu contrôles tous les logiciels du monde. Tu vois, là, par exemple, ma surface, là,
ouais.
tu imagines tous les carrés.
Ouais.
Tu imagines 128 touches comme ça.
D'accord.
Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, on peut le commander. C'est assez cher à commander, mais on
J'imagine.
Peut aussi le monter soi-même.
Okay.
Et dans ce cas, le projet s'appuie sur Monome. Il est supporté par Monome, mais s'appelle le Arduinome, puisqu'il utilise des cartes.
Oui,
Arduino,
d'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est un projet moi qui personnellement m'intéresse vu que je suis passé dans un autre secteur d'activité en termes d'informatique et non plus simplement allumer mon ordinateur pour jouer, par exemple. Bonjour à tous les joueurs. Si sous Linux évidemment. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut vraiment tout faire soi-même. C'est juste génial pour ça. C'est très intuitif. D'ailleurs j'ai trouvé un tutoriel dans un magazine consacré à Linux.
D'accord.
Effectivement, on pouvait faire. C'était très simple, quoi. Faut juste avoir peut-être quelques notions, mais je dirais que c'est pas non plus quelque chose de plus compliqué.
En lisant un peu de doc, ça se fait.
Ah
quoi.
Oui, en lisant de la doc, ça se fait sans problème. Hein. Alors là, dans la documentation, par exemple, il nous proposait de. Je vais ouvrir le livre parce que je l'ai pas ouvert. Il nous proposait, par exemple, de programmer hein, alors attendez que je vous retrouve ça, de programmer une boîte de
ah
musique
oui.
électronique
développée sous Arduino,
voilà, sans expérience préalable nécessaire. Voilà, là par exemple devant moi je tiens tous les éléments pour faire une boîte à musique sous Arduino,
oui bien,
voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que par exemple vous n'avez personne chez vous. Vous rentrez tard le soir, il fait nuit. Vous avez envie en fait d'allumer vos lumières à une certaine heure et de les éteindre automatiquement à une autre heure en fait. Et dès que vous vous approchez de cette lumière, vous l'éteignez. Vous pouvez très bien dire à partir comme ça peut être aussi connecté sur Internet. Vous pouvez très bien dire à partir de l'interface, à telle heure, tu allumes les lumières, enfin tu allumes ta fonction. Dès que je passe, moi, il y a les lumières, et à telle heure, pouf, tu les coupes, comme ça, c'est terminé. Voilà, ça fait de l'économie.
D'accord.
Par exemple, donc ça permet des applications énormes. Que ça, et surtout en domotique finalement, hein. Bon, après faut pas,
c'est ça l'avantage,
faut,
ouais,
pas surcharger la maison de Arduino,
non, c'est sûr, ouais.
Donc il faut trouver vraiment un projet qui soit mais il existe quantité de tutoriels sur Arduino, donc ça ne manque pas sur internet. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à écouter l'intervention de Hugues Aubin au Fab Lab à Rennes, diffusé sur NewWiz, notre nouvelle plateforme de diffusion. Il parlera mieux que moi de tout cela, et on vous mettra le lien, bien entendu, sur ce site. Ouais. On a tout le lien, tous les liens.
Donc pour info, Hugues Aubin, c'est le monsieur technologie d'information et de la communication de Rennes. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est TIC, c'est lui qui a poussé pour monter le Fab Lab, et c'est également lui qui a poussé très 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 fort pour l'essor de l'open data à Rennes. Donc c'est un monsieur qui est très branché open source et toutes les choses comme ça. Donc
tu l'as rencontré au fait la semaine dernière ?
Non, je l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu.
Non,
d'accord.
Pas vu.
T'as été au
Non, j'ai pas eu le temps.
T'as pas eu le temps. D'accord. Non. Parce que on devait tu devais normalement le rencontrer.
Un jour j'irai au Lab Fab.
Ouais. Mmh. Si on peut essayer de prendre contact avec lui, ça serait pas mal. Donc voilà pour le Arduino. Et remercie également Baptiste Gauthier de Télécom Bretagne, qui nous a fait une visite de ses bureaux, où on en a pu découvrir une application concrète,
voilà,
du Arduino. On vous met tous les liens sur le site internet, sur le nouveau site internet. Mais voilà, donc pour ma partie c'est bon, c'est ok.
Très intéressant.
J'explique à peu près. Bon, je suis pas rentré dans les détails parce qu'en fait, j'ai pas expliqué qu'il y avait une bibliothèque qui s'appelle WeRing.
Oui, d'accord.
Voilà, bon. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Hugues Aubin s'occupera un peu plus de vous l'expliquer en profondeur. Si vous êtes en tout cas autour de Rennes, n'hésitez pas à aller au Fab Lab.
Ouais.
Très intéressant.
Ils ont une imprimante 3D.
Oui, qui marche.
Oui.
En tout cas, quand ils ont capté cette conférence, elle marchait depuis 10 minutes.
Ouais. Il venait tout juste de la monter.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Donc une belle imprimante 3D, on en reparlera, je pense, dans les prochaines émissions dans Flux Libre. Fin du focus. De la musique pour se détendre les oreilles. Oui,
yes,
la musique est partie derrière le focus, du coup.
Oui, on a changé.
On a changé un peu. Et en plus, on est largement en avance. Pff, tranquille.
Bon, bah, bien.
On va pouvoir troller tranquillement après la sélection. Pour la sélection en flux libre. La musique. Attention, un tout petit truc un peu plus nerveux là. C'est Outsider, Something Like This, sous licence Creative by SA. Creative Commons by SA. C'est toujours important de le rappeler. Et on revient juste après pour la déquicalisation de Alain. A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
Thank you.
Outsider, Something Like This, dans Enfant Libre numéro 8. Et voilà, j'attendais que la piste se finisse. Bonne petite musique bien pêchue. Hein.
Ouais, ça dépote.
Drum and bass, ouais, très rapide, histoire de faire le lien et le pont entre la première partie de l'émission et la deuxième que l'on attaque avec la dégeekalisation d'Alain. C'est parti. La dégeekalisation aujourd'hui est démarrage d'un OS sous GNU Linux. Attention, dégeekalisation super technique après le focus.
Non, ça va.
Non, ça va.
Ça va, on a déjà fait pire.
Claire, hein. Claire les explications. Il faut que nos auditeurs comprennent comment un OS démarre sous... comment votre OS démarre pour être plus exact. Je t'en
C'est
prie.
C'est parti.
Alain.
Donc, alors le noyau Linux, qu'on appelle plus communément le kernel, c'est le cœur du système. Et autour de ce noyau, il y a plusieurs modules qui s'articulent. Les modules, c'est ce qu'on appelle aussi les pilotes de périphériques, qui permettent d'interfacer le noyau avec les différents périphériques, du style bon, bah, carte son,
carte
Wi-Fi, etc. etc. Alors on va voir un petit peu de plus près les étapes de démarrage d'un PC. On va commencer vraiment depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment où on appuie sur le bouton Power. La toute première étape sur laquelle on va passer rapidement, c'est le BIOS. BIOS, ça veut dire Basic Input Output System, donc en français, système d'entrée-sortie basique. Donc celui-ci teste rapidement tout le matériel, il recherche les périphériques d'amorçage notamment, c'est-à-dire sur les périphériques sur lesquels il peut trouver le MBR. Alors encore un autre
le
terme technique.
Le fameux MBR, qui a donné des sueurs froides à beaucoup de monde,
oui,
je pense.
Oui, le MBR, c'est le Master Boot Record, c'est un petit secteur de 512 octets en début de disque dur, oui, qui contient la table de partition du disque, c'est-à-dire en fait il va décrire où se trouve la première partition et où elle se termine, où commence la deuxième et où elle se termine, etc. Et c'est justement à cause de ces 512 octets-là qu'on ne peut que avoir 4 partitions primaires sur un disque dur. Ensuite, on est obligé de faire des partitions étendues. Bref, je m'attarde pas trop là-dessus.
En tout cas, pour le spécifique, pour le monde GNU Linux, hein. Attention. Parce que des partitions étendues pour Windows, j'en ai
si. Ça marche exactement la même manière puisque c'est
mais
le système,
je crois que non, c'est Windows qui a du mal à marcher sur du logique.
Voilà, c'est ça. Il a un peu plus de mal. Ouais, lui, il aime bien avoir la première partition primaire du disque dur et sinon, ça arrive que ça parte un petit peu en sucette et qu'on ait des petits soucis. Ouais. Donc le BIOS va chercher le MBR, va chercher un MBR sur son disque d'amorçage. Une fois qu'il l'a trouvé, il le charge et il exécute le chargeur de démarrage qui s'y trouve. Donc le chargeur de démarrage, ça va être un logiciel comme Grub, par exemple.
Ouais. Donc, quand pour le plus utilisé aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. On aurait pu parler de Lilo aussi, oui. Mais Lilo est un peu plus ancien et beaucoup moins
beaucoup
pratique
moins
à utiliser.
Pratique. Ouais.
Donc, c'est donc dans le MBR que va être chargé et stocké l'exécutable de base de Grub. Et cet exécutable de Grub, il va aller ensuite chercher le fichier de configuration de Grub pour afficher les différents systèmes d'exploitation sur lesquels on peut démarrer. Et c'est là qu'il affiche sa petite fenêtre où on choisit sa distribution, où on peut même démarrer...
Selon ce qu'on a marqué Windows. Dans le fichier de, voilà. de Grub.
Voilà.
Il y avait deux... Enfin, il y a en tout cas aujourd'hui le fichier où vous pouvez retrouver ces informations, c'est le grub.cfg.
Voilà.
À l'époque de Grub 1, c'était menu.lst, voilà, qui était trois fois plus facile à utiliser puisqu'il n'y avait rien. En fait, il y avait juste, pour vous expliquer, un fichier type menu.lst était juste les paramètres VESA, donc les paramètres, voilà. En fait, les cartes de la carte vidéo pour démarrer, donc c'est-à-dire l'affichage, la résolution, les couleurs et tout ça. Et ensuite, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes. Voilà. En fait, ça dépendait du nombre de distributions qu'on avait à l'intérieur.
Ça, ouais. Mais on va dire trois lignes pour chaque distribution, c'était trois lignes.
Oui, trois lignes pour chaque distribution. Et ensuite, trois ou quatre ou cinq blocs de trois lignes pour dire où est-ce qu'était, par exemple, je sais pas, par exemple, vous avez peut-être un multi-bouton. Windows, où était le Windows, où était le, voilà. Où sont les autres distributions. Donc, et, exactement. Mais par contre, voilà, le grub 2 et donc son fichier associé, le grub.cfg, est un peu plus compliqué parce qu'il est bien plus commenté, hein, il est plus commenté. Mm-hmm. Et puis deux, il faut toujours le régénérer pour qu'il puisse oui. Voir qu'effectivement, ouais. il y avait d'autres distributions. Je t'en prie.
On continue donc. Une fois qu'on a choisi la distribution sur laquelle on veut démarrer, Grub va lancer le binaire du noyau correspondant qui va trouver dans slash boot sur votre partition. Donc si vous faites un ls slash sur votre distribution, vous verrez plusieurs dossiers. Vous verrez notamment un dossier slash boot et c'est là-dedans que se trouve votre noyau. Le noyau a donc un nom de type souvent vmlinux-la version du kernel. Sur Arch Linux, c'est tout simplement vmlinux-linux.
Ouais.
Et une fois qu'il a lancé donc le binaire du noyau, en tout cas qu'il l'a exécuté, ouais, il charge en RAM initrd, qui est une image disque RAM et qui contient les pilotes essentiels au noyau et essentiels au système. Donc par exemple, pour que le noyau puisse lire sur un disque SCSI, eh bien dans l'image initrd, on va trouver le pilote, le module pour pouvoir utiliser un disque SCSI.
Ce sont les fameuses trois premières lignes que vous voyez au tout départ.
Voilà, c'est ça.
Décompressing, alors il y a.
Voilà, c'est
vous
ça.
Vous voyez loading initrd, loading autre chose, je ne sais plus quoi, mm-hmm. Et puis décompressing, et là, voilà, justement, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il passe témoin.
Voilà, donc une fois qu'initrd est chargé, Grub passe le processus de démarrage voilà, au noyau. Et celle-là, c'est le noyau qui prend la main vraiment sur le démarrage. Puisque pour l'instant, le noyau, il a rien fait quoi, encore. Donc une fois que le noyau a récupéré la main, il initialise la mémoire, donc la RAM, il initialise les processeurs, il initialise les entrées-sorties, donc basiquement le clavier, écran, les périphériques de stockage également. Et ensuite, il utilise encore initrd pour charger les pilotes dont il a besoin pour accéder au système. Donc c'est là qu'il va pouvoir lire votre slash, tout simplement, votre partition racine, pour pouvoir donc lire tous les fichiers qu'il a besoin pour faire tout ça. Le fichier initrd est chargé une première fois en mémoire en tant que périphérique de stockage, et il est d'abord monté comme racine slash du système, une première fois, en lecture-écriture seulement. Donc voilà, initrd est monté en lecture seule et les pilotes et modules mentionnés plus haut sont donc chargés. Une fois les modules chargés, initrd est démonté en tant que slash, on ne l'utilise plus et c'est là que le noyau va aller chercher votre racine slash, donc c'est souvent slash dev, slash SDA par exemple, SDA1 par
là
exemple.
Où est votre distribution.
Voilà, c'est ça. Et il monte la racine en lecture-écriture. Donc là, ça y est, c'est quasiment terminé pour le noyau. À ce stade, il est chargé en mémoire, il est opérationnel. Et on va commencer à lancer l'environnement utilisateur. On va l'initialiser et ça va conclure le processus de démarrage. Donc pour le processus de démarrage, c'est un programme qui s'appelle init qui s'en occupe, qui se trouve dans slash sbin slash init. Donc c'est sbin pour system binaries. Ce sont vraiment les binaires système qui appartiennent qu'à root, qui sont utilisés dans ce répertoire-là.
Root, donc précisons qui est ce fameux root. Ce n'est pas un utilisateur, c'est le super utilisateur.
Voilà, il a tous les droits.
Il a tous les droits. Donc voilà. Par exemple, ne vous amusez jamais, au grand jamais, à lancer une interface graphique en root.
Non.
Parce que vous risquez de faire de sacrés...
Vous risquez gros.
Ouais, vous risquez gros.
C'est clair. Donc ce programme init, c'est le tout premier processus chargé par le système. C'est pour ça qu'on lui donne l'ID 1, le processus ID, puisque tous les processus ont un numéro d'identifiant, en fait, pour les hiérarchiser, et init possède le PID 1. Et c'est lui, ensuite, qui va s'occuper de lancer tous les processus qui sont derrière, donc il sera le père ou même le grand-père de tous les processus. Et init va lire un fichier de configuration situé dans slash etc, qui est slash etc slash inittab, qui va décrire les programmes et processus à lancer en fonction des circonstances.
Et c'est justement comme ça qu'on peut dépanner très facilement
voilà,
un ordinateur.
Tout à fait.
Parce que, pour vous expliquer très simplement, il y a différents niveaux d'init.
Voilà.
Il y a le 1, le 3 et le 5.
Voilà, en gros.
Voilà.
Il y en a 6 en tout.
Oui, il y en a 6. Mais pour simplifier, si par exemple vous avez un problème, mais je crois qu'Alain me dit en fait qu'il va en parler juste après.
Exactement.
Ouais. je voulais te court-circuiter. Ah oui, effectivement, ouais. J'avais pas lancé mon écran.
Donc,
je t'en prie.
Il n'y a pas de souci. Donc en tout premier lieu, init lance un script qui s'appelle rc.sysinit et qui réalise les opérations d'initialisation de système d'exploitation. Donc il va d'abord initialiser la variable pass qui va définir en gros où se trouvent les binaires.
La variable d'environnement.
Voilà, les variables d'environnement. Donc la variable pass, c'est ce qui permet, quand je lance, je suis dans une console, j'écris Firefox, j'appuie sur entrée, ça me lance Firefox, il a trouvé tout seul où se trouvait le binaire. C'est grâce à la variable pass qu'il fait ça. Donc pass, P-A-T-H. Rc.sysinit pardon, active également le swap. Il monte aussi les partitions en suivant le fichier /etc/fstab que vous pouvez consulter d'ailleurs. Ouais. Il initialise le nom du système, donc le hostname. Il vérifie l'intégrité du système de fichiers. Il initialise le plug and play. Il initialise l'horloge du système et il détruit tous les fichiers de verrouillage. Donc ce sont les fichiers .lck souvent qui se trouvent dans /var. Qui servent, si un fichier est ouvert en lecture-écriture, il y a un LCK dessus, et comme ça on ne peut plus le remodifier ou le réouvrir ou le supprimer via une autre interface.
C'est un peu selon le même principe que on prend l'exemple d'Arch Linux avec mm-hmm. Pacman, où on ne peut jamais lancer deux fois la même opération sous Pacman parce qu'il y a un lock, il y a un verrou qui est appliqué dessus, il y a un fichier qui est verrouillé.
Il y a un fichier, à partir du moment où Pacman trouve un fichier pacman.lck, ouais. Il va pas se lancer. Il va dire que c'est
DBK.
DBK ?
Oui.
Ah, ça a peut-être changé.
C'est un autre nom.
Peut-être que ça a changé. Donc tous ces fichiers-là de verrouillage sont détruits par rc.sysinit au démarrage. Et d'ailleurs, dans Arch Linux, j'ai eu une époque où il y avait des petits soucis avec Pacman et où le fichier pacman.lock n'était pas forcément détruit. Et donc, il fallait le détruire à la main.
Mais c'est toujours plus ou moins ça.
Ça arrive encore.
Pacman est verrouillé, /lib/pacman/. Et on est obligé de faire à la mano un petit RM en route, bien entendu.
Voilà. On peut pas. Et donc, alors on parlait des run levels tout à l'heure, lancés par Sysinit. Donc, il y a 6 run levels différents.
7.
7 run level, autant pour moi, numéroté de 0 à 6.
Ah, joli. Hein.
Ça correspond à des escaliers
où on aurait une commande particulière, enfin quelque chose.
Voilà, des choses en plus qui sont lancées.
Voilà.
Donc, le run level 0, ça veut dire qu'on arrête le système. Donc quand on tape Alt sur sa machine,
ou reboot.
Alors quand on tape Alt, c'est un init 0 qu'on fait, tout simplement. Quand on tape reboot, c'est un init 6, puisque le run level 6, c'est pour redémarrer le système.
Voilà.
Le run level 1, c'est un mode mono-utilisateur, donc ça c'est pratique pour faire du débugage aussi, puisqu'on se retrouve directement, dès que le kernel est lancé, on se retrouve directement en route sur son système, il n'y a pas besoin de se loguer ni rien.
Ah si.
Non.
Tu te loques pas, mais tu marques ton mot de passe. Pardon, oui.
Non.
Tu te loques pas. À chaque fois, j'ai eu
init 1, non. Init 2, oui, mais pas init 1.
Alors, comment ça se fait que je marque sur ma ligne de kernel moins, forcément, puisque je vais aller en init,
en init 1.
J'ai mon processus de démarche qui commence.
D'accord.
Et là, j'ai mon contrôle D si je veux continuer derrière. Ouais. Moi, je suis obligé à chaque fois de marquer mon mot de passe. Ah, sur Arch Linux.
Avec quelle distribution ?
Arch Linux, FrugalWare.
La dernière fois que j'ai utilisé ça, j'ai pas eu ça.
Ah oui, à chaque fois. C'est pour ça.
Je vérifierai.
je l'ai encore utilisé vendredi.
D'accord, je verrai ça. Donc, ça, c'est l'init 1, mode mono-utilisateur. Le run level 2, mode multi-utilisateur, sans NFS. Donc NFS, c'est Network File System, c'est pour faire des montages réseau distants. L'init 3, qui est souvent utilisé quand on n'a pas besoin de mode graphique, c'est le mode multi-utilisateur avec NFS. Le run level 4, lui, n'est pas utilisé ou il est réservé pour des usages futurs. Enfin, le run level 5 pour le mode multi-utilisateur avec session graphique. Et donc c'est ça qui est utilisé principalement par toutes les distributions. Dès qu'on lance son Ubuntu ou n'importe quelle distrib et qu'on arrive sur une interface graphique, c'est le run level 5 qui est utilisé. Et donc enfin, comme je l'ai dit, le run level 6 pour redémarrer le système. Et
justement, le 3 permet, par exemple, si vous avez des problèmes graphiques, le 3 permet de vous avez la console où on vous est demandé le login. Donc voilà. Vous pouvez passer soit en route, soit directement dans votre login, donc mon nom à moi ou ton nom à toi selon l'ordinateur utilisé. Et ensuite, vous pouvez travailler tranquillement en ligne de commande,
en mode console,
essayer de débugger si jamais il y a un petit problème quelque part, et ensuite pouvoir lancer votre session graphique si bon vous le semble.
Et de la même manière, si vous êtes en session graphique et que votre session graphique a planté tout simplement, on peut faire un CTRL-ALT-F1 ou CTRL-ALT-F2 pour se rendre dans...
Il y a plusieurs en fait terminales de session. Donc
Il y en a 6
à 7.
Il y en a 6 et le 7e est réservé au graphique.
Au graphique.
Voilà.
Donc, c'est le 1 qui est réservé au graphique.
Non,
le reste
c'est le 7.
Et le 7, c'est pas pour les messages d'erreur ? Moi, j'ai toujours utilisé le 7 pour les messages d'erreur, justement.
Non, CTRL-ALT-F7, tu te retrouves en graphique. CTRL-ALT-F1, tu arrives en console.
Divergence, mais moi, c'est bizarre, j'ai toujours eu.
Après, peut-être que certaines distributions n'utilisent pas ça de la même manière.
Personnellement, c'est F7.
En tout cas, j'ai toujours utilisé CTRL-ALT-F7 pour aller sur mon mode graphique.
D'accord.
Enfin, bref. CTRL-ALT-F2, par exemple, va vous envoyer vers une console. Si votre session graphique est plantée, mais que le kernel fonctionne toujours, vous faites un CTRL-ALT-F2, vous arrivez en console, vous buguez.
En général, de toute façon, Xorg, quand il plante, le kernel est toujours actif.
Et là, vous faites un init 3 et le processus init, dans ce cas, va fermer tout ce qui est graphique, tout ce qui correspond au graphisme. Et puis, vous allez pouvoir relancer votre session graphique sans avoir forcément besoin de redémarrer l'ordinateur. Voilà. Donc, init, si jamais on tue le processus init qui a le PID numéro 1, comme je l'ai dit, tous les autres processus meurent. Donc, c'est l'arrêt du système direct, quoi. Voilà. Et vous risquez un petit peu de casser votre machine. Voilà pour. Je vais m'arrêter là pour le processus de démarrage. On pourra revenir un petit peu plus en détail sur comment fonctionne init, puisqu'il y a plein d'autres opérations qui sont faites suivant avec les fichiers RC, enfin les dossiers RC, les fichiers RC qui sont lancés, les démons qui sont lancés ou qui sont arrêtés suivant le run level lancé. Donc on reviendra peut-être là-dessus dans une prochaine des geeks.
Oui.
Peut-être pas tout de suite dans 2 semaines, mais plus tard. Parce que c'est vrai que c'est pas super simple à expliquer. Hein. Mmh. C'est vraiment pas évident.
C'est simple en fait à exécuter pour celui qui est sous GNU Linux depuis un moment.
Voilà.
Parce que c'est très 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 utile. Une fois qu'on a découvert les différents étages de init, donc 1, 3, 5, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, en gros, hein, parce que le reste est plus ou moins non ou utiliser. Une fois qu'on a découvert ça, c'est vrai que c'est super simple de débugger une machine finalement, parce que ça nous permet de voir les logs d'erreurs, voir pour installer un paquet qui manquerait, pour en changer de place, parce que ça met le souk dans la machine. C'est très 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 utile. Et on peut même, alors en init 5 par exemple, on peut même lancer par exemple une session IRC. En installant
en init 3,
En init 3, par exemple, on peut très bien lancer une session IRC. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des logiciels anchors, c'est-à-dire qui fonctionnent en console. En mode console. Bon, effectivement, ça fait un peu, ça fait geek pur et dur parce
mais
c'est très utile.
Moi, je fais ça quand j'installe Arch Linux, par exemple. Le premier truc que je fais avant même de commencer mon install, c'est que je lance un petit, j'installe IRSSI.
Oui.
Et puis comme ça je me connecte sur IRC pour papoter pendant l'installation.
Voilà. Et encore mieux, par exemple moi sur ma distribution Frugal, j'ai GWEC d'installer. Donc GWEC qui est un petit logiciel, j'en parlerai un jour.
Ah oui, tiens,
GWEC qui est un petit logiciel qui en fait est un terminal en affichage tête haute, c'est-à-dire on tape sur la touche F12 qui est son raccourci et boum, on a depuis le bord haut de l'écran, on a un petit terminal qui s'exécute.
Voilà. Alors pour les joueurs, ça s'appelle GWEC puisque c'est un peu comme Quake. Quake, quand on fait F12, il y a la console en fait qui apparaît en bas.
Ouais.
Donc là, c'est exactement pareil, mais sauf que ça apparaît en haut.
Tout à fait. Et c'est vachement pratique.
C'est super pratique.
Parce que j'ai juste à taper IRC. Moi, je me connecte en IRC quand Anchors. Alors, ça peut paraître complètement dépassé, mais alors je peux vous dire, il y a un confort d'utilisation. Par exemple, je lance des processus de Pac-Man ou n'importe quoi d'autre. Pouf, en F12, hop, j'ai mon terminal, je referme mon terminal, je peux faire mes activités, ça ne dérange en rien.
Voilà, c'est ça.
Alors piloter avec un gnome en plus derrière, c'est absolument génial. Bon, il n'y a pas de gnome dans la vie, mais en tout cas, c'est absolument génial. Je le recommande à tout utilisateur avancé qui souhaiterait gagner du temps. En tout cas,
avoir une console sous la main très vite.
Ah ouais, très vite, parce que c'était ça mon problème, c'est que à chaque fois, il fallait soit dans le menu, soit en faisant Alt F2, gnome terminal. Voilà, que là, boum, j'ai juste F12, je le mets en démarrage pour qu'il démarre dès le départ, comme ça, boum, dès que j'ai F12, j'ai ma console qui s'affiche terminée. C'est vachement pratique, enfin, en tout cas, moi je le recommande. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant ce que nous avons dit.
Voilà, pour la dégeek.
C'était assez simple hein, finalement. C'était
finalement, assez simple. Ouais, mais j'espère.
Non, c'était très simple. Hein. Je pense que moi j'ai tout compris en tout cas. Enfin, je le savais plus ou moins. Mais je pense que nos auditeurs ont aussi bien compris la chose. Alors, la dégeekalisation qui a toujours du mal à le dire, s'achève pour se terminer sur la sélection en flux libre avec pas mal de petites choses. Il nous reste pas mal de temps pour développer toutes ces petites choses. Ah, je suis content. Allez, c'est parti. En flux libre, l'émission. Alors, la sélection en flux libre avec la palme de la mauvaise foi. Attention, alors là, on a du très très lourd. Merci Pandolf. Je te remercierai jamais assez. Moins 92. Oh la vache.
Ouais. Ouais, sans doute un des,
alors lui, ouais,
un des journaux les moins bien notés de l'histoire de l'humanité.
Je pense que lui, il va rentrer dans le livre des records à ce rythme-là. Le nouveau site internet dans flux libre. Enfin, on va vous
il arrive.
On va vous expliquer un peu la genèse de la chose. Et la petite surprise qui arrive.
Allez, on garde ça pour la fin.
Ouais, je t'en
même
dis pas, plus.
Non, même pas de teaser, rien du tout.
Non, j'en dis pas plus. Allez. Et je parlerai vite fait après de Frugalware et de Newiz également. Donc ça nous fait une bonne petite sélection.
On a de quoi faire.
Bien trempé. Mais on commence tout d'abord avec la palme de la mauvaise foi. Et quand je vous dis mauvaise foi, vous, utilisateurs de GNU Linux, je peux vous dire que celle-là, elle est pas mal.
C'est
du
lourd.
Ça s'est passé sur le site LinuxFR, lieu très connu de tous les Linuxiens, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du site de référence. Hein.
Voilà.
Donc vous pouvez y aller, hein, linuxfr.org. Vous avez des dépêches donc sur des sorties logicielles, des événements du libre, des journaux.
On en a déjà parlé.
Ouais, on en a déjà parlé, oui. Exact. Et donc des journaux, mais je le rappelle quand même pour nos auditeurs, des journaux également. Pour celui qui a envie d'écrire tout n'importe quoi. Et justement, dans un journal, donc c'était mercredi dernier, le 7 mars, le titre du journal, voilà comment j'abandonne Linux à la maison. Bon,
j'ai vu le titre, je me suis dit, ah, je vais aller voir ça.
Moi, ça m'a pas choqué. Mais quand j'ai lu l'article, effectivement, derrière, bon, voilà. Alors, Alain, tu nous résumes un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monsieur. Qui possédait un vieux PC, enfin pas si vieux que ça, mais bon, qui commence un petit peu à vieillir quand même, avec un Athlon 64 3000+, donc c'est un processeur monocore cadencé à 2,6 Go ou 2,8 Go.
3000+, 2,8.
2,8, ouais, c'est ça. 2 Go de RAM, une carte graphique ATI intégrée, donc bon, un truc somme toute...
Un truc basique, mais...
voilà, qui tournait bien à l'époque, et puis bon, maintenant, qui commence à se faire vieux avec des choses récentes, clairement. En tout cas, avec des distributions récentes. Enfin, on met une arche là-dessus, ça tourne au poil.
Ou des distributions qui utilisent des desktop environnement, donc des environnements de bureau, plus lourds comme GNOME ou KDE.
Voilà, bon. C'est sûr que si on met un GNOME 3 ou un KDE 4 là-dessus...
C'est ça la chance d'avoir un ordinateur puissant, c'est un GNOME 3 est quand même mais c'est vrai que sur du matos comme ça qui a il y a 7 ans, oui,
6-7 ans.
Ouais, voilà. Bon.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui se passe derrière?
Alors, il a cette machine là qui tournait sous Ubuntu 11.04 et puis il s'est rendu compte qu'avec Ubuntu 11.04 il n'avait plus de pilote ATI supporté, malheureusement. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas de chance.
C'est chiant.
C'est limite pas normal.
C'est pas normal,
c'est
de
pas
toute
normal,
manière.
Voilà. et puis, alors, surtout, son problème, c'est que ça ramait, c'était hyper ralenti. Il pouvait pas regarder une vidéo flash sans que ça rame ou sans que ça saute, etc. etc. Et donc, il s'est dit, ouais, Linux, c'est de la merde, j'achète un Mac. Donc il s'est acheté un MacBook Air avec un Core i5 et un SSD de 128 Go, le tout pour 1050 euros.
Alors, ce qui est étonnant, parce qu'un MacBook Air, normalement, ça coûte bien plus cher.
Oui, surtout en 13
pouces. C'est un 1600.
Ouais. Surtout en 13
pouces. Tu tapes dans le 1600 ouais. euros quand même.
Bon, bref.
Bref.
Bref. Et puis là, ben, d'un coup, ah bah oui, ça marche bien. Ah bah c'est rapide, ça accélère Internet, la vie est belle, tout va plus vite. Je comprends pas comment Linux peut ramer autant sur mon PC qui a 7 ans. Bon.
Si on lui mettait une distribution, si on lui mettait Macintosh sur son PC, à mon avis, peut-être qu'il ferait.
Voilà, non, voilà. Mais enfin, moi, ça me sidère, quoi.
Voilà, pourquoi ça t'a sidéré ? Pourquoi justement t'as retenu le truc ?
Parce qu'il se plaint, que Linux, en gros, n'est pas prêt pour le bureau, pour
non,
le PC
ça,
de tout le monde.
Avant,
voilà,
ça,
on en a déjà parlé. Donc, en gros, il se plaint que bah, voilà, son Linux, il rame avec Ubuntu 11.04. Donc, Ubuntu 11.04, c'est avril 2011 pour un PC qui est sorti sans doute aux alentours de 2005, quelque chose comme ça, ou 2006. Et donc, il se plaint que ça rame, que c'est pas normal, c'est inadmissible, blablabla, blablabla. Il achète un MacBook Air flambant neuf à 1000 euros. Donc, je voudrais dire qu'on peut avoir quelque chose de puissance équivalente pour moins cher.
Ah oui, il parlait voilà. de son MacBook là, c'est Core i5 avec SSD. Dans les PC portables, les SSD sont quand même implantés,
oui.
Mais c'est quand même beaucoup des machines qui sont ultra chères.
Ouais,
c'est des ultra portables
cher.
Par
oui,
exemple.
Oui,
donc,
oui.
Pour l'instant, c'est pas tout à fait démocratisé. Mm-hmm. Mais par exemple, à prix équivalent, c'est tout à fait possible d'avoir un SSD avec
Core
i5, ou même s'il a envie d'un fixe, de se mettre un petit SSD avec un Core i5. Et puis voilà.
Un PC fixe à ce prix-là, ça dépote. Hein.
Ah bah oui, ça dépote. Et là, les distributions, elles tournent.
Tu peux mettre ce que tu veux.
Oui, avec une bonne carte ATI.
Donc
moi,
voilà,
j'ai deux axes de réflexion.
Ouais.
Premier axe, faire un journal pour dire qu'il a abandonné Linux pour un Mac. Pff, alors dans ces cas-là, moi, tous les 4 matins, je serais en train de dire j'ai supprimé Windows, j'ai un Windows. Là, c'est moi qui rachète linuxfr.org dans ces cas-là. Ou j'ai changé de distribution, j'ai une Frugal, j'ai une Arch, j'ai une Ubuntu. Bah oui. Enfin, je sais pas, moi, c'est quoi cette manie de nous annoncer. En fait, c'est
on dirait un courrier de justification.
Oui, de justification, j'ai acheté un Mac, je me tirais pas dessus.
Voilà,
ouais,
c'est ça,
sauf que le problème, c'est que tout le monde l'a.
Ne le crie pas sur tous les toits.
Ouais,
et
voilà.
Tu as le droit de dire bonjour, j'ai acheté un Mac parce que j'avais envie d'un Mac. D'accord.
Alors, deuxième réflexion, et celle-ci, elle est plus profonde et elle est sous-jacente en fait derrière son journal. Et là, effectivement, elle est vue de ce point de vue-là, c'est assez intéressant quand même de se faire la réflexion. Le problème des cartes graphiques. Vous savez tous que sous les distributions GNU Linux, il y a deux choix. Le driver libre, qui est obtenu par rétro-ingénierie, c'est-à-dire essayer de deviner le code, balancer des entrées-sorties pour essayer de deviner le code. Donc, c'est pas évident et c'est un peu crade en plus dans la chose. Et le pilote propriétaire, qui sont des pilotes en fait qui sont libérés de la part des constructeurs de cartes graphiques.
Qui sont distribués par
les constructeurs de cartes graphiques. Alors, ils sont au nombre de 3, ATI, Nvidia, qui sont les deux plus gros, et Intel en fait qui fait de l'embarqué, enfin qui fait du chipset. Actuellement, ce qui marche le mieux et de ce que j'ai retenu comme j'ai encore eu le cas, enfin j'ai discuté avec un utilisateur sur le chat de Frugal qui avait justement un problème avec ATI.
ATI,
surtout à pas prendre. Si vous voulez acheter un ordinateur, surtout prenez soit Nvidia ou le mieux, ça serait Intel, parce que Intel développe ses pilotes en open source. Voilà, des pilotes libres. Donc ce qui permet quand même d'avoir quelque chose de intégré out of box dès qu'on a notre distribution.
Une puissance graphique qui fonctionne, Nvidia.
Voilà. Par exemple, donc c'est pas tout à fait bon non plus au niveau d'Nvidia, mais moi de ce que j'en ai retenu depuis que j'ai commencé à avoir des distributions un peu plus compliquées, clairement Nvidia ou Intel, et Intel c'est le meilleur choix. Alors Intel par exemple, si vous faites que de la bureautique, du codage, du développement, n'importe quoi d'autre,
de
l'internet,
Intel.
Moi, je sais que mon prochain PC c'est Intel, faut pas me parler d'autre chose. Si vous voulez à la rigueur jouer, ça marchera aussi, hein. Je veux dire, les plus puissants chipsets graphiques d'Intel permettent de jouer tranquillement, de se détendre un peu. Si vous voulez quelque chose pour vraiment jouer, pour faire tourner en fait des choses un peu plus compliquées, du Blender, ce genre de choses là, donc de la modélisation 3D, là effectivement Nvidia sera un bon choix également. Donc voilà, derrière, il y a aussi ce problème où ATI a des pilotes graphiques propriétaires qui sont certes plus puissants que le driver libre, mais pas plus que ça. Parce que sur certaines machines, il y a par exemple un problème de V5. Alors, la V-synchronisation, en fait, c'est quand vous regardez une vidéo, vous avez des vieilles lignes qui apparaissent. Par exemple, sur mon PC, qui est une carte ATI intégrée, une HD Mobility Radeon, on regarde, effectivement, j'ai la V5 qui déconne à mort. J'ai mon Gnome 3 qui parfois peut friser, voilà, donc il fait des interactions avec le disque dur a tendance aussi à friser derrière. Mais si j'utilise le pilote libre, c'est pas que ça me dérange, c'est pas que je m'en fous. Enfin, moi, si je pouvais choisir, ce serait le pilote libre. Problème, mon pilote libre, il fait fonctionner mon ventilo à plein régime. Comme il a pas de capteur ça, de température, automatiquement, il croit qu'il a toujours la température haute. Il tourne à fond. Si jamais je mets, par exemple, un démon dans mon mode probe, dans mon fichier mode probe, pour qu'il le lance dès le démarrage, donc le contrôle de la température, là, j'ai des frises, à chaque fois qu'il change de température et de fréquence de cadençage d'horloge de processeur, à chaque fois il va clignoter, l'écran va clignoter. Je veux bien du pilote propriétaire, il n'y a aucun souci, mais quand ça marche comme ça, moi j'ai quand même avoir envie de voilà. Donc en général je prends le pilote proprio, c'est moche peut-être, mais j'ai pas envie d'avoir un ventilo qui me casse les oreilles tout le temps, et deux, parce qu'on sait tous qu'au niveau matériel un ventilateur qui tourne à fond, ça use la pièce. Et je travaille dans le hardware, donc je sais à peu près de quoi je parle. Et ça peut devenir très moche dans un PC. Et en plus, ça a tendance en plus à chauffer, puisque le ventilo, il tourne à fond et ça dégage de la chaleur, ce qui est logique. Donc, ce qui n'est pas forcément bien. Donc derrière ce journal, je pense qu'il y a quelque chose, il y a plus un réel problème, mais... pas besoin de le dire, voilà. On s'en fout.
Pas besoin de se justifier,
Mais ça c'est quelque chose de libre.
Le problème, c'est de comparer les performances d'un PC de 7 ans avec une distribution dessus hyper récente.
Ouais.
Et en l'occurrence, comparer ça avec un MacBook Air qui vient de sortir.
C'est vrai que c'est assez hallucinant.
Après, forcément, tu vas pas te plaindre de te manger un moins 92 sur ton journal. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent.
Heureusement que son article.
On raconte des bêtises.
Heureusement que son article était en CC BY SA. Mais voilà, monsieur Pandolf, nous, on a repéré ce journal parce que, voilà, tu as le droit de le dire, mais dis-le dans ta tête. Mais ça c'est un truc que j'ai toujours remarqué dans cette communauté du libre, c'est de toujours vouloir annoncer, de toujours vouloir se justifier. Exemple avec Flash Plugin, le plugin Flash par exemple. Je dis toujours pas selon le nom du paquet, non. C'est Plugin Flash. J'ai pas besoin de me justifier, je l'utilise parce que malheureusement les alternatives, certes elles sont là, mais elles sont pas très nombreuses pour l'instant. Il y a pas les performances, donc voilà. Mais je vais pas me justifier que j'utilise Flash Plugin.
Non.
Voilà. Bon, je l'ai toujours plus ou moins dit dans l'émission, mais j'ai toujours un Windows qui traîne derrière, même si pour l'instant je réfléchis, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Dans ces cas-là, je fais un journal. Voilà. Non.
Tu fais un journal.
Oui.
Aujourd'hui, j'ai booté sous Linux, sous Windows.
Sous Windows.
J'ai booté sous Windows parce que je voulais jouer. Alors c'est inadmissible, Linux on peut pas jouer.
Non, et en plus sous Linux on peut jouer. Alors, j'arrête tout de suite le truc.
Je peux pas jouer à quoi on peut pas jouer sous Linux?
À tout.
GTA.
Si, souvent avec Wine.
Avec Wine,
une bonne machine. Avec une machine. Non, faut modifier pas mal de choses.
Enfin bref.
Enfin voilà, c'est vraiment un coup de gueule pour dire arrêtons ce genre de journal ou de journal où c'est trollifère. Alors je veux bien croire que Trolldy était pas très loin, mais enfin quand même, là, s'il fallait y aller quoi. Quand j'ai lu ça le matin, au départ ça m'a pas choqué, après je me suis dit waouh, puissance humaine quand même, puissance atomique.
Exactement.
Parenthèse refermée, trollesque refermée. On enchaîne avec notre nouveau site internet, l'ami du temps.
Oui.
On vous en avait parlé beaucoup, enfin dans pas mal d'émissions à chaque fois qu'on devait réviser notre site internet. Voilà, ce qu'il fallait vraiment voir le site internet dans Philippe comme quelque chose pour déposer des podcasts et juste mettre les articles correspondants aux épisodes, rien de plus. Donc nous, ce qu'on a voulu faire après, c'était un vrai site internet qui propulse l'émission. Et donc on voulait recruter, enfin au moment-là on voulait recruter un tas de rédacteurs qui nous rédigent des articles, un peu à la manière d'ailleurs de LinuxFR, sauf que LinuxFR.org le fait. Bon. Voilà. Donc après on a voulu se diriger vers des éléments, enfin faire des, comment vous dire ça, des événements du libre en France. Sauf que nos amis de l'agenda du libre le fait également.
Ils le font très bien.
Ils le font très bien, donc pas la peine. Donc on s'est dirigé vers une voie entre deux, c'est-à-dire que nous on tenait des blogs avant, donc on va réouvrir en fait nos blogs finalement, donc on va reverser tous nos articles sur le site d'Enfle Libre, et on va pouvoir faire des éditoriaux, vous apporter un contenu en fait vraiment que ça soit un prolongement complet de l'émission, que le site soit vraiment autour de l'émission et qui propulse réellement l'émission. Donc on a quitté Tux Family, d'ailleurs on les remercie pour l'hébergement qu'ils nous ont offert. Mm-hmm. On quitte Tux Family pour enflulibre.org puisque bon bah derrière on a des serveurs qui permettent en fait de faire tourner un tas de services, hein, notamment des flux RSS, des todo list, enfin des choses quand même beaucoup plus complexes. On pouvait le faire sans doute sur Tux Family.
On peut le faire sur Tux Family aussi.
On pouvait le faire sur Tux Family, mais voilà, on voulait vraiment avoir quelque chose d'entier, d'entier au niveau du nom. Donc le site internet se nomme www.enflulibre.org. Vous pouvez même le trouver sur enflulibre.fr, ça marche. Je crois qu'on avait, on a acheté,
oui,
les deux noms de domaine.
Ouais.
On avait acheté les deux noms de domaine, donc c'est enflulibre.org. De toute manière, si vous avez Tux Family qui est dans vos favoris, on a une redirection vers le site, hein, qui sera mis en
il
place.
Il va y avoir, c'est pas encore mercredis. Mis en place,
ouais,
mais
c'est
ça
pas
va
mis
être
mis en place, mais dans les trois jours qui vont suivre, ça va être mis en place. Donc, et vous pourrez toujours déposer vos commentaires. On a profité pour repasser de WordPress à Drupal. Donc, ça a été un peu compliqué d'ailleurs, parce qu'il a fallu mettre les mains dans le cambouis, enfin surtout.
Oui, et puis je connaissais pas Drupal, donc j'ai découvert
c'était
un
formateur,
petit peu tout
hein.
Ça. Oui, très formateur. J'ai fait, on a bricolé un petit peu en CSS aussi.
Ouais.
D'après les retours que j'ai, le site est plutôt joli, donc c'est tant mieux. En tout cas, bien plus joli que le précédent.
Ouais, oui.
Qui
on n'avait pas beaucoup bossé. Hein.
Non, on avait fait ça.
On a vraiment fait ça à l'arrache. Hein. Ça, il faut
vraiment histoire d'avoir
vouloir.
Une vitrine,
ouais,
vite fait. Là, c'est vraiment
de plus abouti. Avec nos propres articles, et on écrira très régulièrement dessus, puisque comme on tenait nos blogs avant et qu'on les a abandonnés suite à ça, on va
tout relier, tout ça sur le même site,
enflulibre.com. Tout à fait. Donc enflulibre.org pour déposer vos commentaires et télécharger bien entendu l'émission des mercredis. J'espère que ça sera mis en place cette semaine.
Oui, ça va être mis en place cette semaine.
De toute manière.
Et si vous souhaitez, si vous n'avez pas de blog et que vous souhaitez rédiger des articles, vous serez les bienvenus sur le site d'Enflulibre pour proposer vos articles.
Donc soumis, je préfère le préciser, hein, soumis à relecture derrière.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il est bien évident que on n'acceptera pas les articles du type « Comment installer tel PPA sur Ubuntu ?»
Voilà.
On s'en fout un peu, nous. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, Ubuntu, très bien, mais c'est pas notre cœur de cible. Donc, soumis à relecture. Mais si un sujet vous intéresse, un coup de gueule à passer, ou n'importe quoi, ou pour annoncer une distribution d'une communauté qui n'a pas beaucoup de visibilité, il n'y a pas de souci, vous venez nous mailer et contact@enflulibre.org pour le mail d'ailleurs, pour nous contacter directement, et donc ça arrivera directement dans nos boîtes. Et suite à ça, et bien écoutez, suite à vérification de la chose, vous serez publié, il n'y a aucun souci, et votre texte vous appartient sous licence, ça dépendra, je ne sais pas comment, mais en tout cas votre texte vous appartiendra, ne nous appartiendra pas, nous ne sommes pas une société, donc on est content.
Nous
parce que
pas Facebook,
non, surtout pas, donc on est super content parce que ça nous fait un bon site internet qui propulse l'émission. Donc en plus vous en avez rendu compte, pardon, l'émission commence tout doucement à évoluer et c'est vers cela que je vais finir l'émission. Donc deux petites choses, New Wiz tout d'abord,
voilà.
Je te laisse présenter New Wiz, Alain.
Alors, New Wiz, c'est une wiki radio tenue notamment par Manuel Bédouet à Rennes. C'est une wiki radio. Donc,
qui est chargé de mission pour le numérique à Rennes et Rennes Métropole, hein, c'est ça?
Non.
Manuel
Bédouet?
Oui, c'est ce que j'ai
c'est Hugo Bain, ça.
Alors,
ça, c'est Hugo Bain.
J'ai...
Manuel Bédouet, il travaille pour une société, une petite start-up. qui développe en fait une application dans le navigateur qui permet de comment dire d'avoir un studio mais dans son navigateur. Donc ça permet de faire les mixages, d'avoir les entrées sons, etc. Bah, bon, c'est dommage, mais je peux comprendre. Mais cette application là est propriétaire. Mais ils ont profité d'avoir cette appli pour lancer une wiki radio donc, qui s'appelle NewWi, sur laquelle on peut proposer son propre contenu. Donc pour ça, il faut contacter l'administrateur de NewWi et puis lui proposer son contenu. Et puis voilà, son contenu peut être diffusé. Donc eh bien, à partir de maintenant, le mardi soir, en flux libre sera diffusé sur NewWi. Je crois que c'est à 20h le mardi soir. Voilà, donc on va commencer par l'épisode 2. Alors, parce que l'épisode 1, il passe à la trappe parce qu'on l'avait vraiment raté. On va commencer par diffuser l'épisode 2 mardi. On saura le combien, tiens. Le combien est-ce qu'on sera mardi ? On sera le 13, mardi 13. Mmh. On va diffuser l'épisode 2 à 20h. Mardi 20, on va diffuser l'épisode 8. Et une fois sur deux, en fait, une semaine sur deux, on va rediffuser les anciens numéros jusqu'à ce qu'on rattrape.
On rattrape notre retard.
Le retard.
Alors, voilà. NewWiz, pour voilà, Alain l'a très bien expliqué. Donc, est soutenu par l'Agnon-Trégor agglomération, donc l'Agnon qui est une ville en Bretagne. Pas dans notre coin. Bretagne Développement Innovation et Saouti qui est un fournisseur de Wiki Radio et partenaire. Ils ont Télécom Bretagne. Donc on en a parlé tout à l'heure justement.
Oui.
Ils ont la plateforme d'études et de recherche sur les fibres optiques spéciales, la Fondation Internet Nouvelle Génération, par exemple, l'École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie. Donc on a quand même du très très lourd derrière NewWi. Et donc merci de tout cœur à Manuel Bédouet qui a pu propulser notre émission en fait sur cette plateforme. Donc voilà, à partir de 20h le mardi soir sur NewWi, nous vous diffuseront donc en flux libre épisode 2.
Voilà
parce que la première était une catastrophe.
Voilà, c'est ça.
C'est pour ça on veut pas vous diffuser la première.
Et puis eh bien pour continuer sur l'émission et ses évolutions, il y a je sais pas si vous le savez, il y a Libre en fait qui a lieu autour du 21 mars.
Alors c'est du 21 jusqu'au premier week-end d'avril en fait.
D'accord.
Ouais, c'est d'accord. Ça se prononce sur les deux.
Donc c'est en fait l'occasion d'organiser un petit peu partout en France des événements autour du libre. Donc on retrouve les agendas hein, d'ailleurs sur le site Libre en Fête 2012. Je ne sais plus exactement le nom du site. Ghislain va nous retrouver ça. Et pour dans le cadre de Libre en Fête et avec le soutien de l'association Actux à Rennes, En Flux Libre sera enregistré et diffusé en direct de la cantine numérique à Rennes le vendredi 23 mars de 18h30 à 20h. Donc ce sera une émission un petit peu spéciale puisque elle n'aura pas le même format qu'on vous présente depuis maintenant 8 numéros. Ce sera une émission avec des invités, on laissera surtout la parole aux invités. On va avoir des gens qui vont, une association notamment qui va venir nous parler de jeux libres. Donc Baptiste Gauthier qui va venir nous parler
de
d'Arduino.
De Télécom Bretagne justement, d'Arduino qui expliquera mieux que moi tout
exactement.
À l'heure puisqu'il est au cœur du développement d'un projet Arduino. Il y aura également Manuel Bédouet, je crois, il devait passer.
Sans doute, ouais, c'est pas sûr encore, mais
Manuel Bédouet,
j'espère l'avoir.
De NewWi. Ouais. Et donc une belle émission qu'on vous prépare depuis un petit moment sans que vous le saviez. Alors c'est ça qu'en fait qui est super marrant, c'est que voilà, on fait nos émissions, mais derrière il y a un tas de petits trucs qui arrivent et on est super content en fait et super fier des retours qu'on a par rapport à l'émission puisqu'on s'est largement amélioré depuis le tout premier numéro il y a de ça maintenant quelques mois, puisque c'était en octobre ou en novembre de l'année dernière.
Octobre
l'année dernière.
Je crois que c'est autour du 23 octobre.
Nous avons bien galéré comme il faut à réécouter le premier collector. Faudrait qu'on le refasse, mais en vrai, tu vois, je suis sûr que les minutes 40, ils passent à une heure, mais direct.
C'est vrai.
Donc, voilà. Donc, c'est le 23 mars. à partir de 18h30 à la cantine numérique à Rennes. On vous mettra tout ce qu'il faut sur enflulib.org.
Voilà.
Le plan d'accès si vous êtes rennais. Si vous n'êtes pas rennais et que vous souhaitez assister à l'émission, il n'y a aucun souci.
Elle sera sur NewWiz.
Elle sera sur NewWiz. Donc voilà. Et puis moi, je serai en plus déchargé de la technique puisque nous avons même un technicien. Bonjour à toi, Aurélien, si jamais tu nous écoutes. On aura la technique de libérer, donc on espère vous offrir une émission de libre et de liberté numérique, parce que là ça va pas mal partir dans l'open source, l'open data. Alors il y a effectivement, tu t'en as parlé tout à l'heure, le jeu libre, donc voilà, ça va vraiment, ne vous attendez pas à avoir une conférence Apple, une keynote, ça ne sert à rien, c'est pas chez nous que ça se passe, ça c'était la semaine dernière et on s'en fout complètement. Avis à tous les maqueux, bonjour. Je vais encore me faire beaucoup d'ennemis, mais ça, je m'en fous. Alors, c'est le 23 mars et toutes les infos, on vous donnera ça. On vous donnera ça la semaine prochaine ou début de la semaine d'après, selon, parce qu'on a une grosse émission à préparer.
Bah oui, il y a du boulot.
Ouais, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc, on s'y met dès que cette émission est partie en ligne. On s'y met juste derrière.
Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'Aurélien, on devrait bientôt, a priori, mettre en ligne une émission qu'on a enregistrée avec des étudiants de l'ESRA pour parler d'ACTA, des libertés informatiques et des modes de distribution de la culture. Et, une émission auquel Ghislain et moi avons participé vendredi dernier. Et on espère pouvoir récupérer le fichier pour le mettre en ligne.
Pour l'instant, propriété de l'ESRA. Donc, on fait un peu notre auto-promo, voilà, mais je pense que ça fait du bien, pour vous, de nous suivre. Et merci en fait à tous ceux qui nous suivent et qui nous cliquent et qui voilà, c'est super important pour nous, parce que je pensais pas que ça allait arriver aussi loin au tout départ. Hein. Je pensais que j'allais faire, en tout cas moi quand j'ai eu cette idée, sans qu'Alain ne soit là avant, je pensais pas un jour en faire autant de numéros, même si effectivement faut relativiser, on est qu'au 8e numéro, mais surtout en faire un podcast régulier, une émission, enfin un podcast qui devient émission, diffusé sur notre plateforme, et en plus que l'on peut faire en direct et en public. Donc ça fait très plaisir. Merci à Actux, d'ailleurs l'association rennaise des utilisateurs de Linux, qui n'est pas la seule, bien entendu. Ben voilà.
Voilà, c'est fini.
C'est la fin d'Enflux Libre, 8e numéro. Fin de nos causeries libristes et libertaires. Je voulais parler vite fait de Frugalware. Je veux en parler vite fait parce que j'ai rencontré des gens très sympathiques, une petite communauté française très très sympathique.
Ils sont connus pour être très sympas.
Ouais, c'est la première fois que j'ai une communauté où j'avais un problème. J'ai eu plein de problèmes les trois premiers jours pour installer Frugal. C'était une horreur. Donc Frugalware, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, c'est une petite distribution sans prétention qui utilise d'ailleurs certains éléments communs à Arch, notamment au niveau de Pac-Man, son gestionnaire de paquets. Donc voilà, des gens très très sympas, les développeurs sont français. Je peux citer 2505 qui m'a lancé l'invitation sur les commentaires de l'émission, par exemple, ou Bast, ou Thierry, Tac, voilà, ils sont très très nombreux. Je les remercie de leur gentillesse, de leur simplicité, parce que voilà, c'est comme ça que j'ai pu m'établir directement sur Frugal et d'y rester, parce que je suis content de pouvoir collaborer entre guillemets, je mets toujours ce mot là entre guillemets, mais collaborer avec des gens aussi sympas.
Et donc, en faisant les guillemets avec les mains.
En plus, ce qui n'est pas du tout radiophonique. Donc merci à vous les gars et merci de votre gentillesse et de votre accueil. C'est super, 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 super gentil à vous. Voilà, bah, je pense qu'on a fini l'émission.
On a fini.
Sur ces très très belles notes dans Flux Libre. D'ailleurs les gars de Frugal, pour l'instant j'ai pas changé le générique, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard quand Jack marchera sur Frugal, pour l'instant c'est pas trop le cas, faudrait que je regarde ça d'ailleurs. Voilà, ça fait une émission bien complète, bien costaud.
Très bien.
On respecte totalement, on est dans les temps. C'est parfait, même si le conducteur nous a plus ou moins servi, voilà, on espère avoir fait une émission plus dynamique qu'avant. On va se quitter tout doucement, vous souhaitez une bonne soirée, parce qu'on attaque en fait nous la soirée de notre côté, il est déjà 19h26.
Ah oui.
Bonne soirée à tous ceux qui écoutent sur NewWiz également. Et oui, qui écouteront dans le futur cette émission sur NewWiz, donc diffusée de 20h jusqu'à 21h30 environ, hein, parce qu'ils font environ une heure et demie. Et puis voilà, je te remercie Alain.
Merci Ghislain.
Merci pour ton enthousiasme, hein, toujours aussi présent.
On essaye.
Oui, t'inquiète pas, tu le fais très bien. Et puis on vous donne rendez-vous le 23 mars, c'est un vendredi, attention, horaire spécial, 18h30, 20h, diffusé en direct sur NewWiz. Et évidemment enregistré pour retrouver
l'émission sera podcastable.
Voilà, podcastable directement.
Balado diffusable.
Voilà, j'adore ce mot en français. Génial. Oui, on a bien fait l'info, le flux d'infos. Alors ouais, pourquoi pas balado diffusion. Donc la balado diffusion en flux libre est maintenant terminée. Merci à la distribution AV Linux qui nous a permis de réaliser cette émission. Toute nouvelle, une distribution que j'avais déjà approchée et qui marche out of box, c'est magnifique. J'avais rien à configurer, juste à brancher
tant
la carte
mieux.
De son. Ouais, tant mieux, et ça fait du bien. Donc AV Linux basé sur du Debian. Je vous mettrai les liens directement sur le site enflibre.org et on se retrouve le 23 mars pour un nouvel épisode. Mais celui-là, il sera spécial, donc ne suivra pas l'ordre des numéros.
Non.
Faites attention. Ce sera en flux libre spécial en direct de la cantine numérique à Rennes. Merci Alain.
Merci Ghislain. Merci à tous.
Et la bataille ne fait que commencer. Salut, ciao.
Au revoir.